voici le journal de Sébastien Logénie. Bonjour Sébastien.
Bonjour Marc, bonjour à tous. À la une ce matin, le glyphosate empoisonne l'atmosphère européenne. Les 28 pays de l'Union n'arrivent pas à s'entendre sur l'avenir de cet herbicide. Faut-il renouveler sa licence pour 10 ans ou pas? Les experts de chaque État membre se réunissent ce matin à Bruxelles. Quelle sera la position de la France? Marc, vous recevez à 8h20 le ministre de l'Agriculture, Stéphane Travert.
Oui, le gouvernement se déchire sur cette question. Qu'en sera-t-il tout à l'heure à Bruxelles? Quel est le poids des lobbies également dans ce dossier? Vos questions dès maintenant, 01 45 24 7000 sur le Facebook Live de France Inter et sur Twitter avec le mot-clé le 79 Inter.
Les divisions entre syndicats, nouvel épisode hier soir. Toutes les centrales étaient réunies pour tenter de faire l'unité, de lancer un mouvement commun contre la politique du gouvernement. Nouvel échec. Au programme également des supporters italiens de la Lazio de Rome qui s'illustre à nouveau par une provocation antisémite. Au procès Mera, le témoignage aujourd'hui du frère d'un des soldats tués à Montauban. Le divorce devenu plus facile ces dernières années, mais pas un cadeau pour les enfants. Et enfin, on terminera avec du cinéma et l'OVNI du réalisateur Vincent McCain. On pourrait appeler ça un casse-tête chimique et il est aujourd'hui sur la table des Européens. Dans moins de 2 mois expire la licence du glyphosate, le célèbre herbicide. Il faut donc la renouveler. Cela posait jusqu'ici peu de problèmes. Renouvellement tous les 10 ans, mais cette fois, le glyphosate, soupçonné d'être cancérogène par l'OMS, est au cœur d'un débat qui fait rage entre scientifiques, politiques, lobbies et citoyens. Alors, faut-il l'interdire, le renouveler et pour combien de temps? C'est donc aujourd'hui que les 28 pays de l'Union se réunissent à Bruxelles. Une réunion de leurs experts nationaux qui vont devoir plancher sur plusieurs scénarios et notamment sur le dernier proposé par la Commission de Bruxelles, un renouvellement plus court que prévu, entre 5 et 7 ans maximum. Anne-Laure Barral.
C'est un peu une partie de poker qui doit se jouer aujourd'hui entre les 28 experts des États membres et chacun cache bien son jeu. Ce qui est sûr, c'est que la majorité qualifiée des pays est contre l'autorisation pour 10 ans. Les experts devraient donc discuter de la nouvelle proposition de la Commission d'autoriser le glyphosate pour 5 à 7 ans. Soit ils la clarifient et la votent, soit ils prennent le temps de la discuter. Généralement, il faut 15 jours entre la position de la Commission et le vote des experts. Mais vu les tensions qu'a créé le débat, on sent la volonté d'accélérer le processus. Ensuite, quel sera le calendrier? La France dit non au glyphosate, mais Matignon refuse de dire si elle acceptera 7, 5 ou 3 ans, sachant que la position de l'Allemagne sera déterminante. Hier, le vote du Parlement européen a mis un nouveau pavé dans la mare. Les députés ont voté pour un plan de sortie du glyphosate sur 5 ans et pas pour une nouvelle licence pour 5 ans, comme le veut la Commission. La nuance est importante, puisque si les experts acceptent la proposition de la Commission européenne, il y a fort à parier qu'ils se retrouvent dans la même situation qu'aujourd'hui, en octobre 2022.
Difficile donc de savoir ce que vont décider les États membres, mais qu'on choisisse de l'interdire ou non, de le renouveler pour 3, 5 ou 7 ans, reste toujours une question. Comment se passer de cet herbicide ultra efficace? Même les chercheurs en agriculture n'ont pas de réponse toute faite. Rosalie Lafarge.
Le problème du glyphosate, c'est que ses atouts en ont fait un incontournable pour beaucoup, beaucoup d'agriculteurs. On en épand plus de 8000 tonnes par an en France. Christian Huyghe est le directeur scientifique agriculture à l'INRA, l'Institut National de la Recherche. Agronomique.
On n'a pas trouvé de produit équivalent au glyphosate parce que c'est un mode d'action très particulier qu'il a, extrêmement efficace, qui se répand dans l'ensemble de la plante et donc qui tue aussi bien les parties aériennes que les parties racinaires. C'est un peu une substance merveilleuse. Si elle n'avait pas d'impact environnementaux et sur la santé, on n'a pas grand-chose à lui reprocher. Et la conséquence du fait que c'est un produit qui marche bien, qui est un produit relativement peu cher et facile à utiliser, conduit à ce qu'on a organisé des systèmes de production autour de ça. Et donc ça oblige à des formes de reconception un peu plus larges.
Repenser des systèmes dans leur ensemble pour trouver les solutions les plus adaptées aux spécificités des terroirs et des exploitations.
On voit des options nouvelles, en particulier ce que permet le biocontrôle, mais aussi ce que permet la résistance génétique des plantes aux maladies. C'était aussi les méthodes de protection mécanique, de suppression des mauvaises herbes par un binage mécanique. Il n'y a pas une solution. Il faut sortir de l'idée qu'il y a une solution.
Surtout que la question dépasse la seule problématique du glyphosate. À l'INRA, on cherche à développer des modèles d'agriculture performantes et productives, mais moins dépendantes à l'ensemble des produits phytosanitaires.
Le reportage Rosalie Lafarge. Autre débat empoisonné sur la table du gouvernement français. Celui-là, on parle du CETA.
Oui, l'accord de libre-échange entre l'Europe et le Canada est depuis le début l'objet de vives inquiétudes chez les écologistes, les éleveurs en particulier. Le texte est déjà entré en vigueur il y a un mois, mais il doit encore être ratifié par les parlements nationaux. Alors, pour déminer le sujet, le Premier ministre s'y colle. Édouard Philippe doit détailler aujourd'hui le plan d'action du gouvernement afin d'encadrer l'application du CETA. Pas sûr toutefois que cela suffise à apaiser les critiques, des critiques qui viennent de tous bords à l'Assemblée nationale, de gauche à droite en passant par la majorité. Victoire Fort.
à un bout de l'hémicycle, la droite forte.
Quand allez-vous renoncer à l'ultralibéralisme ? Quand allez-vous enfin protéger nos travailleurs, nos ouvriers, nos paysans ? Quand allez-vous
Guillaume
enfin
Pelletier, député LR. À l'extrême opposé, les députés peuple, communistes sont sur la même ligne. Qu'importe le plan du gouvernement, rien n'est bon dans le CETA. Une seule solution, donc, le référendum. Jean-Paul Lecoq, député communiste de Seine-Maritime.
Les députés de La République En Marche, ils essayent d'enfumer un petit peu tout le dossier, communiquer sur « ça peut être moins pire ». Nous, on ne dit pas « ça peut être moins pire », on dit « c'est mauvais ».
Balle au centre, au sein de la majorité, plus que des frondeurs, des députés qui, eux aussi, alertent. Mathieu Orphelin, proche de Nicolas Hulot, a adressé ses propositions au Premier ministre. Pour lui, au sein de son groupe, pas de rapport de force, mais une pression positive. Sa démarche, estampillée En Marche, distillée petit à petit des idées écologiquement plus ambitieuses.
Ce que je sais en écologie, c'est qu'on ne gagne jamais sur tout. Mais là, le fait qu'on soit arrivé tous les députés de La République En Marche concernés par le sujet, de converger sur ces préconisations, quand même, je pense que pour le gouvernement, ce serait une très très bonne idée que de reprendre nos propositions.
À titre personnel, le député n'a pas exclu de voter contre le CETA. Réponse à l'automne prochain, date de ratification par les parlements nationaux.
En bref, en politique, La République En Marche semble avoir trouvé son chef. Christophe Castaner va prendre les rênes du parti du président. Il confirme ce matin qu'il est candidat. Exclure ou ne pas exclure saison 3. Le feuilleton continue chez les Républicains. Le bureau politique devait trancher, c'était sûr, cette fois le sort des ministres et députés pro-Macron. Le bureau a bien voté pour l'exclusion, mais les votants n'étaient pas assez nombreux. Il va donc falloir une nouvelle réunion la semaine prochaine. Dans le genre réunion ratée, il y avait celle aussi des syndicats hier soir. Ce devait être une réunion pour trouver un terrain commun, montrer son unité face au gouvernement. Eh bien, encore une occasion manquée. Les syndicats sont sortis des locaux de la CFDT en ordre dispersé. Certes, la CGT, pour la première fois, Force ouvrière, se sont mis d'accord sur une journée commune de manifestation le 16 novembre prochain. Il faut qu'ils lâchent du lest donc, mais pas la CFDT qui refuse toujours le rapport de force avec l'exécutif. Laurent Kramer.
À la CFDT, Véronique Descac dresse désormais une ligne claire entre deux formes de syndicalisme aux directions opposées.
En dépit de la confrontation avec la réalité, c'est-à-dire peu de salariés mobilisés, etc., mais il y a quand même en France un syndicalisme qui croit que la contestation permettrait d'aboutir, on ne participera pas à un faux semblant d'unité intersyndicale pour appeler à une mobilisation, alors même qu'on est persuadé que la mobilisation, ça ne marche pas, ça n'apporte aucun résultat pour les salariés.
Au-delà de la méthode, la CFDT et Force ouvrière n'ont pas non plus été capable de signer un texte commun contre la politique sociale du gouvernement, s'étonne à Force ouvrière Pascal Pavageau.
Ce qui est plus étonnant, c'est visiblement la volonté de ne pas aboutir sur au moins un texte même minimaliste de diagnostic commun et en même temps de nous demander de sortir des locaux pour aller établir la plateforme revendicative de mobilisation.
Poussé par sa base, Force ouvrière rejoint donc la CGT dans la rue le 16 novembre prochain, mais à la CFE-CGC, Gilles Lecuel fait le constat qu'un front social unitaire est impossible à trouver face au gouvernement.
Il y a une troisième possibilité, c'est qu'on fasse quelque chose tout seul, puisque si on n'arrive pas à se mettre d'accord avec les autres, ni d'un côté ni de l'autre, ça va être difficile.
Pendant ce temps, le gouvernement avance, lui, avec une méthodologie implacable, regrette un responsable syndical.
Laurent Kramer, les grandes entreprises vont devoir mettre la main à la poche pour renflouer les caisses de l'État. C'est la conséquence du feuilleton de la taxe de 3% sur les dividendes, cette taxe du gouvernement précédent, invalidée au début du mois. Bercy doit trouver 10 milliards d'euros et a donc décidé de faire appel au sens civique des grandes sociétés. Selon les Échos, une négociation est en cours pour qu'elle s'acquitte de la moitié de la facture, 5 milliards d'euros.
8h09 sur France Inter à l'étranger, une nouvelle crise secoue le monde du football italien.
C'était dimanche dernier à Rome, des supporters ultra du club de la Lazio, connus pour leur chant raciste, leur salut fasciste, ont marqué leur passage dans le stade olympique de Rome d'une bien triste manière en collant des images d'Anne Frank jusque dans les toilettes du stade, représentant la petite fille juive vêtue du maillot du club adverse, l'AS Rome, leur pire rival sportif. Un acte antisémite qui a soulevé une vague d'indignation dans tout le pays, au point que la Fédération italienne de foot tente par tous les moyens d'éteindre l'incendie. La correspondance de Mathilde Imberti.
La Fédération italienne de football a réagi rapidement à cette nouvelle tempête partie des rangs de la Lazio. Dès hier soir, les enfants qui accompagnaient les joueurs sur le terrain pour le match Inter-Sampdoria ont reçu chacun le journal d'Anne Frank. Il en sera ainsi lors de chaque début de match cette semaine et le week-end prochain sur les terrains professionnels et amateurs en Italie. Un extrait du journal d'Anne Frank sera également lu dans les stades. Une réponse d'ampleur après que des supporters du Lazio aient collé dimanche dernier au stade olympique de Rome des images de la petite juive victime des nazis en endossant le maillot de l'AS Rome, leur équipe ennemie. Le président de la Lazio a tenté de calmer les esprits, déposant des fleurs hier devant la synagogue de Rome, Claudio Lotito.
La Lazio a toujours été très claire et a adopté des positions très fermes, se portant en justice dans certains cas. Après, dans un groupe de 40, 50 000 supporters, il peut toujours se glisser un imbécile. On ne peut pas mettre un policier derrière chaque supporter.
Le club romain a aussi décidé que 200 jeunes tifosi se rendraient chaque année au camp d'Auschwitz. Ils risquent avec cette affaire des sanctions sportives. La Lazio, qui a déjà été privée pendant deux matchs d'accès à son virage habituel au stade olympique suite à des chants racistes entonnés par ses supporters en début de mois. Rome, Mathilde Imberti, France Inter.
En bref, à l'étranger, sans surprise, Xi Jinping obtient un nouveau mandat de 5 ans à la tête du Parti communiste chinois avec une nouvelle équipe dirigeante sans rival pour lui faire de l'ombre.
8h11, les victimes à la barre aujourd'hui au procès Mera.
Oui, et notamment le témoignage Naoufal Ibn Ziaten. Il a perdu son frère Imad, le premier militaire tombé sous les balles de Mohamed Mera. Il s'apprête à dire sa douleur à la barre. Cela fait 5 ans qu'il attend cela.
Je parlais de mon frère. Je parlais des derniers souvenirs que j'avais avec lui. Vous savez la force qu'il a eue, Imad, face à l'ennemi. Il me donne une force qui me pousse à aller dans ce tribunal et qui me pousse à aller dans la salle. Et ça, tous les jours. Et je veux lui montrer à Abdelkader Mera qu'il a fait beaucoup de mal. Je veux, avec ce message de paix que je veux lui envoyer demain, qu'il puisse réagir d'une façon humaine. Parce qu'aujourd'hui, c'est un criminel dans le boxe, c'est pas un humain. Et j'ai besoin de lui montrer ce message de paix que nous, en tant que musulmans, que nous sommes pas dans la même optique et la même religion d'ailleurs que cette famille. Mera.
Naoufal Ibn Ziaten au micro de Charlotte Piret, une audience à suivre sur franceinter.fr. Divorcé sans passer par un juge, la réforme date de l'an dernier et simplifie largement les procédures, c'était le but. Une simplification qui toutefois inquiète le Conseil économique, social et environnemental, le CESE, qui alerte sur les conséquences pour les enfants. En clair, la simplification du divorce ne se fait pas toujours dans l'intérêt des enfants. Sébastien Sabiron.
Divorcé sans juge en 15 jours pour 280 € par époux. Une offre publicitaire imbattable pour un cabinet d'avocats qui vante la simplicité de la procédure. Simple, mais pas sans faille pour Yves Tolenado, avocat au barreau de Paris et spécialiste du divorce.
Dans l'absolu, des parents pourraient se mettre d'accord avec le juge qui n'existe plus aujourd'hui dans ce mode de divorce et qui ne va pas venir contrôler, que la garde alternée sera un jour, deux jours, pourquoi pas même un mois, voire un an.
Désormais, la convention de divorce est établie entre les deux avocats des époux, puis enregistrée par un notaire. Exit le juge donc, sauf si l'enfant en fait la demande, totalement aberrant selon Maître Tolenado.
On demande aux enfants de remplir un document dans lequel ils vont dire « oui, je suis conscient que je peux être entendu par le juge aux affaires familiales, mais je renonce à cette possibilité » et ils vont signer.
Le Conseil économique et social préconise la création d'un plan de coparentalité, un document juridique signé par les parents au moment de la séparation. Pascal Coton, vice-présidente du CESE.
On propose que ce plan de coparentalité prenne en compte tout ce qui concerne l'enfant. La pension alimentaire, la garde, le sport, les vaccins, la santé, tout peut être écrit devant un médiateur qui pourra débusquer lorsque les droits de l'enfant ne seront pas respectés et dira là stop, moi je demande à un juge aux affaires familiales de statuer à votre place.
En 2015, plus de 123 000 divorces ont été prononcés, près de la moitié par consentement mutuel.
Sébastien Sabiron, chaque année 250 000 couples se séparent, 315 000 enfants sont concernés. L'affaire Maëlys fait monter la tension entre les enquêteurs. Deux mois après la disparition de la fillette fin août à Pont-de-Bonvoisin, il ne se passe pas une semaine sans une révélation dans la presse, des indiscrétions qui font enrager le procureur de Grenoble. Il vient donc d'ouvrir une enquête pour violation du secret de l'instruction avec les gendarmes dans le viseur, les gendarmes qui dénoncent des accusations péremptoires.
On termine avec un ovni qui se pose au cinéma.
Un film de Vincent McCain, on le connaissait pour être comédien, metteur en scène, le voici maintenant réalisateur. Vincent McCain s'attaque pour son premier film à La Cerisée de Tchekhov, une adaptation très libre, baptisée « Pour ». pour le réconfort et qui met en scène un groupe d'amis d'enfance en train de se déchirer sur fond de lutte des classes. Corinne Pellissier.
Tu m'écoutes, d'accord ? Maintenant c'est fini les enfantillages !
Au théâtre, au cinéma, ces personnages sont animés d'une même fougue rageuse. On s'invective, on s'engueule, on vit fort. Depuis 15 ans, Vincent Macaigne a su imposer son style, entouré d'une troupe de comédiens fidèles. Les voilà cette fois-ci réunis pour incarner un groupe d'amis d'enfance tiraillés entre le plaisir de se retrouver et la rancœur générée par leurs différences de niveau de vie.
Ah, regarde, c'est un arbre. On a déjà vu un ? Regarde, ça monte. C'est des bourgeois qui jouent au pecno.
Une sorte de lutte des classes 2.0 qui donne à réfléchir sur les notions d'héritage et d'injustice. D'un côté, Emmanuel et sa bande, très modestes. De l'autre, Pauline et son frère Pascal, de retour au pays, après avoir flambé toute la fortune familiale en voyage. Ensemble, ils assisteront impuissants à la mise en vente aux enchères de leur domaine, comme dans La Cerisée de Tchekhov. Une adaptation très libre et réalisée surtout avec trois fois rien, sans équipe, sans scénario, sans argent, et filmée en 10 jours avec un caméscope, un ovni à la sincérité très touchante, à l'image de Vincent Macaigne, le portrait passionné d'une génération qui a perdu l'espoir.
Pour le réconfort de Vincent Macaigne, c'est aujourd'hui sur les écrans.
Merci, c'était le journal de Sébastien Logénis sur France Inter.